Chapitre 5, Paris, 5 décembre 1843. Mes rapports se succèdent, monsieur, et je ne reçois toujours pas de nouveaux ordres. On m'assure que l'encombrement de divers services entrave pour un moment celui dont je fais partie. Je compte au moins que je ne serai pas tensé plus tard pour avoir omis de déclarer combien l'urgence de mon travail me paraît décidément contestable. Si mince que soit mon mérite, je me crois digne d'une tâche supérieure à celle d'observer une sorte de fesse Mathieu qui ravaude ses chaussettes et fera quelque jour la lessive. Sentinelle perdue, pour ainsi dire, esclave de mon devoir, je n'en resterai pas moins à mon poste jusqu'à l'heure où l'on jugera à propos de venir me relever. Vers le milieu de la semaine dernière, le sieur Van Nier a reçu la visite de la Louise dont il a été question. C'est, ma foi, une fille très appétissante, qui, avec une peau d'un blanc de muguet, a des joues de rose et des yeux pétillants à la perdition de son âme. Elle releva en entrant la voilette noire qui cachait en partie son visage. Et dans l'air de surprise des Gésipes, elle déchiffra apparemment un blâme. « Puisque vous ne venez pas nous voir, » dit-elle résolument, « il faut bien que je vienne chez vous. » Je m'aperçus que le sieur Vanier fermait sa porte dont la clé était en dedans, et je fus un peu alarmé. Je suis marié, père de famille, et puis, bien dire, le modèle des pères, car encore que mon petit soit estropié et innocent, je l'aime autant que s'il était gentil et malin. J'ai été toujours considéré à cause de mes mœurs irréprochables. Hélas, à quoi ne sommes-nous pas exposés? Par bonheur, les choses se sont passées avec plus de décence que je l'espérais. Assis vis-à-vis de l'un de l'autre, ils se sont regardés longtemps comme des chiens de faïence, sauf ceci, qu'ils semblaient se dire un tas de choses avec les yeux. « Voulez-vous savoir, » a fait tout à coup Vanier, « l'idée que vous éveillez en moi avec votre robe noire et votre figure mélancolique ?»« Non, voyons, dites. » Mais il me semble voir une gentille veuve venant pleurer au cimetière sur une tombe. Oh, quelle pensée funèbre! Oh, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais n'avez-vous pas quelque espérance? Oh, but, dit jadis écrasé sous un pressoir, que les espérances eussent ruisselé à remplir des tonnes. Mon ami, la précieuse nourriture et les chauds vêtements pour une femme, que les espérances. La douce consolation pour un homme d'âme de répondre à sa famille qui crie la faim et le froid. Mes bien-aimés, le sang de ma chair, la moelle de mes os, tenez, rassasiez-vous. Voici des espérances. Croyez-moi, Louise, ne prononcez jamais ce mot. C'est un pain qui trompe l'âme sans nourrir le corps. Il n'a été pour moi qu'une excitation perpétuelle à un travail d'écureuil. Si j'avais encore la folie d'en tenir compte, et sous son influence de m'acharner à la poursuite d'un rêve jadis caressé avec passion, à mes souffrances personnelles, je joindrais celle, torture bien autrement atroce, d'être supplicié dans ma femme et dans mes enfants. Mais est-ce donc moi qui vous inspire cela ? Dit Louise d'une voix attendrie. Et l'étendue de mon désespoir te donne la mesure de ma tendresse. À mon ambition de vivre pour ma mère avait succédé celle de vivre pour toi. En toi, j'oublierai tous mes mauvais jours, si Dieu m'accordait le bonheur suprême de t'appeler ma femme et de descendre à tes côtés la vie, quand même si pénible. Mais pourquoi pas, dit Louise les larmes aux yeux. Mais dans mon impuissance à te créer un milieu convenable, que signifie le mot aimer entre nous? Où il fait froid et faim, l'amour est une misère de plus et un ridicule par-dessus le marché. Un Werther en haillons soulèverait le cœur. L'amour est une des mille manifestations de l'âme. La première condition, la condition essentielle pour que cette âme existe et se manifeste sous toutes ses formes. Il faut que le corps vive. Un homme misérable n'est qu'une portion d'homme. Dans un corps affamé et mal vêtu, l'âme devient une superfluité gênante. Il faut attendre, subordonner inflexiblement nos sentiments à la nécessité, sous peine de les voir tourner à l'aigreur, peut-être à la haine, et peut-être encore, pensée horrible, à l'indifférence. Puis, la misère isolée peut être encore digne, mais au sein de la famille, elle est ignoble. Elle pousse à toutes les indignités, à toutes les bassesses. Elle avilit, dégrade l'homme sous une avalanche de pitié stérile. « Mais venez au moins nous voir de temps en temps, » dit la jeune fille. « Je vous jure que je ne me laisserai jamais attendre. » « Cher enfant, » a répondu Vanier, « d'ici à quelques jours, j'aurai mis un terme à toutes les incertitudes. D'une façon ou d'une autre, mon avenir sera décidé. S'il est vrai, comme d'aucuns le prétendent, que la logique gouverne le monde, que nos actions s'engrènent fatalement et conduisent à un résultat fatal, que nous ne puissions rien sur les événements, pas plus que nous ne pouvons empêcher un fleuve de couler. Au moins, sommes-nous maîtres d'une chose, d'être des hommes ou des guenilles, de nous ennoblir ou de nous avilir, de nous développer en Dieu ou de descendre vers les animaux. Je serai digne quand même. Aucune puissance humaine ne sera capable de faire que je m'avilisse. La fin même, bon, je la dompterai. Encore un peu de patience. » Louise profita d'un moment où Vanier détournait la tête pour glisser sur la table, parmi les livres, un porte-monnaie qu'elle tenait caché dans sa main. « Il faut plus revenir, » reprit bientôt Égésippe. « J'ai besoin de tout mon courage, les larmes, une herbe, je vous écrirai. » La jeune fille ne fut pas plutôt sortie que Vanier découvrit le porte-monnaie. D'un bond, il alla entrouvrir la porte et, d'un accent fébrile, rappela Louise qui descendait l'escalier. Celle-ci remonta toute tremblante. Et Égésippe, s'enfermant de nouveau avec elle, l'obligea de s'asseoir et s'agenouilla à ses pieds. Oh, vous eussiez dit un saint transporté au septième ciel. « Oh, mon ami, » dit tendrement Vanier, « quoi qu'on en puisse dire, nous nous aimons bien autant que s'aimaient Roméo et Juliette. Notre amour ne participe d'aucune vanité. C'est une sympathie à un degré d'intensité extrême. Je le comparerais volontiers à l'adhérence irrésistible de deux aimants. Tout est si bien commun entre nous, pensée, rêve, âme, que je ne saurais concevoir une chose à toi qui ne soit pas à moi aussi. Mais, cher bien-aimé, je tiens pour absurde les sacrifices inutiles. » Il fit voir le porte-monnaie et ajouta, « Si cet argent m'était nécessaire, je le garderais comme mon bien. Il ne peut me servir, autant voudrais l'enfuir dans un puits. Allez, reprends-le. » Louise, toute rouge, disait, « Mais je n'ai que faire de cela, et vous pouvez en tirer parti. » Mais devant un refus plus ferme de Vanier, elle continua d'une voix éteinte par l'émotion. « Égésippe, accepte cela pour l'amour de moi. » Vanier tint bon. La jeune fille se fâcha. Vous ne m'empêcherez pas de voir là, dit-elle, avec une vivacité qui la faisait ravissante, une défiance blessante pour moi, et de votre part un orgueil déplacé. Et Gésippe la saisit par le milieu du corps. Oh, si j'ai encore quelque orgueil, lui dit-il avec passion, en imprimant un long baiser sur ses lèvres, c'est d'être aimé de toi. Louise s'échappa toute bouleversée des bras de Gésippe. Peu après, elle s'en alla. Alors, le front dans ses mains, la tête renversée en arrière, Vanier s'écria « Mon Dieu, pitié pour cet enfant! Mon Dieu, je vous en conjure, donnez-moi mon pain de chaque jour, amoncelez les chagrins en mon âme, que des douleurs d'une violence inconnue la déchirent, mais, ô mon Dieu, faites que je vive !» Chapitre 6, Paris, 10 décembre 1843. Monsieur, j'apprends à la fois que des mutations ont eu lieu dans le personnel des bureaux dont je relève, et que je suis sous un nouveau chef, et que la plupart de mes précédents rapports n'ont point encore été dépouillés. Dans l'espérance que vous lirez celui-ci prochainement, j'oserai me féliciter d'être sous les ordres d'un homme auprès de qui Rabelais n'eût fait de œuvre et qui passe à bon droit pour n'avoir pas moins d'esprit que n'en avait Monsieur de Voltaire. Votre prédécesseur, à la veille de prendre sa retraite, vous aura laissé bien de la besogne sur les bras. En vue d'économiser votre temps, je pourrais, sur le brouillon que je possède, faire un résumé succinct de mon travail. Après cela, il vous suffira peut-être de savoir qu'il s'agit d'un coquin original qui a la manie des ablutions, des prières, du pain noir trempé d'eau, des courses, des visites, et de la rage de salir du papier ou de geindre sur un gros violon. Hors de cela, je le surprends des heures entières, immobile comme un bloc de marbre. Le diable connaît seul ce qui se passe alors dans cette tête résolue et sinistre. S'il remue les lèvres, il parle toujours comme s'il pensait que je suis là pour l'entendre. Depuis quelques jours seulement, un travail nouveau l'occupe. Il passe en revue, avec un soin minutieux, tous les objets qui encombrent sa chambre, livres, papiers, lettres, etc. Il range ces choses dans un certain ordre et en fait des lots. Il a pour ami un peintre avec lequel il s'entend à merveille pour faire mentir toutes mes prévisions. Cet ami est venu hier au moment où le sieur et Gésippe achevaient de se toiletter. « Louise est venue, dit ce dernier, voir mon précédent rapport. « Je le sais, a dit l'autre. Elle m'a tout conté. Prenez-vous donc plaisir à briser le cœur de cette pauvre fille ? Oh, mieux vaudrait sans doute, n'est-ce pas, creuser dans son cœur un vide que je ne comblerai jamais, nourrir en elle l'espérance d'un bonheur dont la réalisation semble s'éloigner chaque jour davantage. Oh, je passe sur ici une série de lamentations incompréhensibles qui témoigne que ce Vanier a le cerveau bien malade. Je dois cependant, quelque dégoût que j'éprouve, ne pas omettre les détails et les résultats d'une visite que mon homme annonçait depuis quelques jours. Sa volubilité de langue me contraint, au reste, de ne vous offrir qu'un résumé de sa conversation avec le sieur Aubin. « Je suis donc allé chez ce personnage, disait-il, car c'en est un par sa position, son influence, sa fortune. Me lui doit la justice de dire qu'il m'a reçu d'une manière aimable. Il m'a fait asseoir, et après une lecture attentive de la lettre et un examen spécial de la signature, il m'a dit d'un air de surprise, « Mais que fait ce monsieur ? Je connais plusieurs personnes de ce nom, n'est-il pas? Ah oui, j'y suis. Bon, je me rappelle l'avoir vu une fois. Enfin, peu importe. Que me voulez-vous, monsieur? Accablé de confusion d'abord, je repris courage à l'air bienveillant de mon interlocuteur. Je lui exposai en peu de mots que je travaillais depuis 10 années, que, sans me croire un aigle, je pensais d'avoir quelques talents, et que du reste, il m'apprécierait mieux que je le faisais moi-même s'il daignait me confier un travail. Et j'ajoutais tout ce que je jugeais capable de lui donner une bonne opinion de moi et de le toucher. Il m'interrompit pour me demander si j'étais marié, si j'avais des enfants. Il semblait penser, à moins que de cela, mais comment m'intéresserais-je à vous? Ainsi, pour avoir manqué du triste courage de lier le sort d'une femme à mon horrible sort, et de voir à ma suite une demi-douzaine de misérables affamés, ma misère ne mérite aucun intérêt. Oh, Diderot était plus juste. Vous n'ayez pas de famille ou ayez du talent. Du reste, je me fais un plaisir de le répéter. Il a été envers moi d'une politesse excessive. Une heure durant, il n'a pas discontinué de me tenir sous le charme de son éloquence. Oh, les oreilles m'en tintent encore. Il pesait ses paroles et s'écoutait parler, comme il arrive aux hommes dont la pensée est le reflet de celle des autres. La littérature, à laquelle pourtant il doit d'être ce qu'il est, et qui est pour les rhéteurs de sa force un excellent véhicule au pays de Cocagne, était la cible qu'il trouait pédamment de lieux communs à jeter hors des gonds l'être le plus pacifique. Cette phrase, c'est un état qui ne peut nourrir son homme, était comme le tout-petit obligé de cette tirade plus longue que des fusées, mais à coup sûr moins brillante. Enfin, après s'être épuisé en variations sur ce thème, il s'est recueilli dans une pose analogue à celle qui, dans un feu d'artifice, sépare le bouquet des autres pièces, et m'a dit de cet air et de ce ton qui présage une chose sublime. Tenez, récemment, notre grand poète national disait devant moi, à une personne de marque, la littérature ne saurait être tout au plus qu'une badine, mais jamais une canne, comme pour s'appuyer. Je n'avais qu'à courber la tête devant des autorités aussi graves. D'ailleurs, ajouta-t-il, quand on veut tenir une plume, il faut avoir quelque chose à dire. D'accord, mais que sait-il de moi? Est-il disciple de Gall ou de Lavater? J'avoue que dans la bouche d'un homme aussi bien élevé, une pareille phrase m'étonne. À moins qu'il n'ait tenu à me prouver qu'il empruntait bien plus à sa mémoire qu'à son intelligence. Quand j'ai entamé le chapitre des places. Oh, la bureaucratie l'a fait parler d'or. L'expression bureau, tenant lieu du mot lettre, oh, il a renouvelé une argumentation identique à celle dont il venait de me combler. Oh, j'ai vu l'instant où il allait me dire, tenez, tel disait devant moi, tel. Le bureau ne serait-elle tout au plus qu'un croquet pour tromper l'appétit, mais jamais une brioche pour le rassasier? Finalement, il a bien voulu me donner le judicieux conseil de planter là le métier des lettres, de ne plus songer au bureau et de tâcher à gagner ma vie avec autre chose. Mais avec quoi? Ainsi, vous le voyez, avec le parti pris spontané de ne rien faire pour moi, il tenait encore à me prouver, et à se prouver à lui-même, qu'il était le meilleur des hommes, et à acquérir des droits à ma reconnaissance. Je manquais à lui répondre bien des choses. Il ne m'eût même pas écouté. Il m'aurait reproché amèrement mon endurcissement, sinon mon ingratitude, et m'eût jeté à la porte. et j'eusse été privé du bonheur de toucher la main de cet honnête homme et du plaisir de l'entendre faire des vœux pour ma prospérité. Ce qui, certes, m'a pas fait de mal. Vanier a ensuite parlé d'un voyage qu'il allait entreprendre. Et l'air singulier dont il a dit cela me porte à croire qu'il va enfin exécuter le mauvais coup qu'il prémédite depuis tant de jours. Je veille. Chapitre 7. Paris, 20 décembre 1843. Monsieur, je vous écris sous l'influence d'une impression affreuse. Quand je considère la simplicité de la cause, je ne comprends pas d'où vient qu'elle a produit des effets si surprenants. Je ne dors jamais que d'une oreille et l'autre fait toujours le guet. Je ne m'étonne donc point d'avoir été réveillé par un bruit aussi doux que le souffle d'une brise. Mais en levant les paupières, mes yeux furent attirés vers le milieu de ma chambre, à la hauteur de ma tête, par deux regards rouges qui rayonnaient dans l'obscurité comme deux bougies au fond d'une lanterne. Donner une idée de la secousse que je ressentis est la chose du monde la plus impossible. Ces deux prunelles de démons, ardentes, immobiles, fixées sur moi, accrochaient ma chair comme deux crocs rouges du feu de la forge. Le ressentiment d'une douleur atroce qui courait jusqu'au fond de mes os faisait de mon corps un mur de cave humide, glaçait mon sang, me médusait. Mon cerveau même semblait de pierre. Si j'étais incapable d'action, je n'étais pas moins de penser et de vouloir. J'obéissais, sans même chercher à m'en défendre, au mouvement circulaire, douloureux à l'excès à force de lenteur, de ces petits globes enflammés qui fouillaient obstinément dans ma poitrine et mes entrailles. Je ne saurais calculer combien de temps je restais en proie à cette folle terreur. Oh, j'ai été soumis à bien des épreuves. J'ai eu la jambe cassée d'un coup de pied de cheval. J'ai dû me faire couper un doigt brisé d'un coup de bâton. Mais de ma vie, de mes jours, je n'ai jamais aussi cruellement souffert que durant cette heure qui m'a semblé plus longue qu'un siècle. Un moment de plus, je m'évanouissais. Par bonheur, un léger miaulement m'a débarrassé tout à coup de cet horrible cauchemar. J'ai compris que j'avais affaire à un chat, et ma satisfaction a été si profonde que je n'ai même pas songé à me mettre en colère. D'ailleurs, j'eus craint d'appeler l'attention de mon voisin, qui, précisément, comme je le vis en appliquant mon œil au trou, ne dormait pas et travaillait toujours. J'ai entrouvert ma porte avec précaution, et le chat s'est empressé de sortir pour aller gratter à la porte des gésipes. J'ignore encore comment cette bête est entrée chez moi. Qu'elle ne tombe jamais sous ma main dans un endroit sûr. Au jour, Vanier était encore couché sur sa table, la plume à la main. Il était fort pâle et avait le tour des yeux tout violet. S'il fallait un exemple de ce que peuvent sur l'homme les passions détestables et la fainéantise, jusqu'à quel point elles sont capables de le changer et de le défigurer, il suffirait de montrer le sieur Égésippe. Je l'ai vu, cet homme, le cœur gonflé d'envie et de rage, chaque jour maigrir et se courber. Actuellement, son visage n'a plus de chair. Les lueurs cynides de son œil brillent au fond des cavités profondes. Le poids de sa tête fait ployer son corps décharné. Ceux qui l'ont rencontré il y a un mois ne le reconnaîtraient certainement plus à cette heure. Les bras croisés sur la poitrine et le front penché, il tourne parfois dans sa chambre comme une bête fauve dans sa cage. D'autres fois, il joint les mains et lève les yeux au ciel. L'hypocrite, c'est le désespoir vivant. Il avait prié le sieur Roumain de repasser dans quelques jours. Le peintre était longtemps sans pouvoir obtenir une parole de lui. « Mais je vais enfin quitter cette chambre, » a-t-il dit soudainement d'un air lugubre, « et j'en suis point fâché. Tout ici m'inquiète et me fait mal. Oh, il faut sans doute que le chagrin ait agi sur mon esprit et le trouble, car je suis aux prises avec les plus étranges visions. Il me semble qu'on m'espionne. Je suis obsédé par un individu que je trouve sur mon passage n'importe où que j'aille. J'ignore quel est cet homme à face plate, à l'air abruti, au teint livide et en quelque sorte venimeux, sur lequel les yeux semblent jetés comme deux éclaboussures. Sa barbe est étiolée comme une toison galeuse. Je le sens à toute heure sur ma tête, mes reins, ma poitrine. Ici même, je ne puis me soustraire au poids de son œil qui paraît me tenir en laisse. C'est la fascination de la torpille. Sans doute l'imagination rentre pour beaucoup dans cette impression. Toujours est-il que cette impression m'accable et m'engourdit. Et tandis qu'il disait cela, il regardait précisément de mon côté. J'ai ôté involontairement mon œil du trou. On eût dit que son regard infernal passait à travers le mur et me dévisageait. Je ne pense pas cependant qu'il voulût parler de moi. Le miroir que je consulte me renvoie une image qui ne ressemble nullement au portrait. Le peintre lui a demandé où il allait et quand il partait. « Je vous écrirai, » a répondu Hégésippe. Et il a ajouté, après un long silence, au moment où son ami se disposait à sortir, « Mais j'attends de vous un service qui exige une grande ponctualité. Je vais devoir ici un terme. Je n'ai point d'argent et je ne veux point avoir de discussion avec le propriétaire. Je lui abandonne tout ce qu'il y a ici. » Je me suis arrêté à lui apprendre mon départ au moyen d'une lettre. Puis, retirant de son pupitre une lettre écrite et cachetée depuis hier, et la remettant au peintre, « Voici cette lettre, » a-t-il dit, « gardez-la jusqu'au 25. Ce jour-là, ni plus tôt ni plus tard, veuillez la remettre vous-même au concierge de la maison. » Il a beaucoup insisté sur ces détails et a fait promettre 10 fois au peintre de s'y conformer rigoureusement. Il a encore retenu son ami pour lui parler longuement de Louise. « Allez la voir souvent, » a-t-il dit, « et faites-lui comprendre que le désespoir est une faiblesse stérile. Je ne suis pas plus maître de moi qu'un homme entre 4 gendarmes. » Je pars parce qu'il faut que je parte. Je me sépare d'elle avec la conviction de la revoir un jour. Aubin s'est levé de nouveau, et Vanier est devenu plus sombre. Peut-être nous reverrons-nous jamais, a-t-il balbutié d'une voix altérée. Oh, le voyage que j'entreprends est long et périlleux. « Oh, mon vieil ami, vous m'avez vu bien jeune. Vous connaissez la maison où ma mère m'a mis au monde, le cours où j'ai joué, les champs, les vignes, la rivière, dont le souvenir m'est si doux, le cimetière où je voudrais avoir une petite place à côté de cette mère que j'ai aimée, que j'aime éternellement. Vous avez été témoin de mes efforts. Mieux qu'un autre, vous savez ma vie et mes douleurs. Allez, avant de nous séparer, mon ami, que je vous serre la main et que je vous embrasse. » Les larmes coulaient de ses yeux. Oh, je vis l'instant où le peintre allait pleurer aussi. Il se hâta de partir. Mon Dieu, s'est écrié Vanier d'un air abattu et profondément mélancolique. Détournez de moi ce calice. puis des sanglots dans la gorge. « Mon Dieu, a-t-il repris, que votre volonté s'accomplisse jusqu'au bout. » Le lendemain, à la suite d'une courte absence, Hégésippe est rentré avec un objet assez volumineux enveloppé dans un papier épais. C'était un fourneau en terre cuite. « Oh, voilà, pensais-je, un singulier ustensile pour voyager. » Je supposais que mon homme, las de pain sec, allait cuisiner un peu pour se donner des forces. À ma grande surprise, dans la même journée, il est sorti 3 fois et rentré, rapportant chaque fois, avec les mêmes précautions, un instrument semblable. Je me suis inutilement creusé la tête en vue de découvrir l'usage auquel il réserve ces 3 fourneaux qu'il a soigneusement cachés dans son placard. Sa tristesse croissait de plus en plus. Il employait une partie de la soirée à mettre le feu à des papiers, à des lettres, répétant sans cesse « Mon Dieu, que votre volonté s'accomplisse !» Le 18, il a procédé à une acquisition notable de charbon. Il en a rempli ses 3 fourneaux jusqu'au bord. Moins que jamais, je comprends le but de ses préparatifs. 3 fourneaux pour un homme qui ne fait pas habituellement la cuisine et qui est à la veille de son départ, j'avoue que cela me paraît bien surprenant. J'ai vainement attendu l'arrivée des comestibles. Et Hégésippe continuait de manger son pain sec et de boire son verre d'eau. La chose de brûler ses papiers semblait le contrarier beaucoup. Son visage avait parfois la pâleur d'un mort. Je frémissais de rage, moi, car ces papiers noircis contenaient sans doute bien des secrets. Et toujours il levait les yeux au ciel et suppliait Dieu d'avoir compassion de lui. « S'il est un dieu, s'occupe-t-il d'un tartuffe pareil ?»« À l'heure que je vous écris, sa cheminée est à demi pleine de cendres noires, et sa fureur de brûler n'est pas encore affaiblie. Bon, je saurai sans doute bientôt à quoi tendent toutes ces manigances. Il est présumable que mon prochain rapport satisfera pleinement votre curiosité à ce sujet. Je ne perds pas mon homme de vue. » Je suis horriblement fatigué. J'ai dans la tête des douleurs névralgiques intolérables. Bon, je ne serais nullement étonné s'il m'arrivait de faire une maladie. Chapitre 8, Paris, 25 décembre 1843. Monsieur, je vous envoie mon dernier rapport sur le sieur Hégésippe Vanier. Une lettre à la même adresse que la première, et que j'ai surprise de la manière que vous saurez plus loin, va vous apprendre comment j'ai décidément terminé ma tâche. Voici cette lettre. À l'heure où tu liras cette lettre, j'ai pris mes mesures. Tout sera irrévocablement fini. On dira que, devenu fou d'impuissance, j'ai recouru au suicide. On dira peut-être que la vérité, car je crois qu'un homme ne peut mourir qu'il n'ait produit tout ce qu'il avait à produire, qu'il ne soit plus, pour ainsi parler, qu'un sac vide. Cependant, je n'eus plus de santé, d'énergie, jamais des facultés plus saines, jamais je ne me sentis plus voisin du but qu'à cette heure où je m'en vais. Ce serait le cas de s'écrier « fatalité ». Non, j'aurai mauvaise grâce, je ne commettrai point cette sottise. Enrayé par le besoin, provenu en partie d'une maturité trop tardive, j'ai échoué. Je pouvais tout aussi bien me trouver mûr, juste, au jour où la misère est venue s'asseoir à ma porte, et réussir. et la fatalité devenait destinée. D'où, avec raison, destinée, conscience, a dit un Allemand, deux mots pour une même idée. Fatalité, préjugé funeste contre lequel l'homme doit faire fin, rage. L'être assez malheureux pour y croire ne tarde pas à être frappé de vertige. Il se tord lui-même les entrailles quand il est convaincu de succomber sous la puissance d'un destin inexorable. D'ailleurs, je ne suis pas libre de reproches. Il fallait, moins absorbé dans mon travail, moins âprement préoccupé du but, consacrer un temps à l'étude de la vie. Solitaire, je me suis fait le centre d'un cercle d'idées absolues, quand il n'est de possible, en principe, que les idées relatives. L'homme assuré contre la faim peut seul, et encore, suivre inflexiblement la ligne droite, se dispenser de mensonges, n'obéir dans l'expression de ce qu'il sent et de ce qu'il pense qu'à l'influence de sa conviction. Au nécessiteux, le machiavélisme n'est pas moins nécessaire que le talent. Pour s'établir en ce monde, il faut s'y paraître établi. On ne tombe pas sous le coup d'un article du Code pour un peu d'intriguer, un peu mentir, un peu mendier, voire un peu voler. Faute de souplesse, je me brise. Oh, je profère d'imprécation contre personne. J'ai rencontré nombre d'hommes de cœur. J'en connais un, entre autres, d'un caractère ferme et loyal, d'un esprit élevé et d'un grand talent, d'un jugement rare à qui j'use de bon cœur ouvert mon âme. Mais, précisément, parce qu'il est ainsi, pour en avoir été bien traité, pour l'estimer profondément, à ses yeux, moins qu'à ceux de tout autre, jamais je n'eusse consenti à manquer de dignité, à me faire mendiant. Dieu connaît seul quelle était ma profonde passion de vivre. Que je ne regrette pas amèrement la vie, cela est impossible. N'y aurait-il que toi, avec qui je comptais vivre un jour, et Louise, pauvre fille, qui nous eût créé un intérieur si plein de charme. Ne songerais-je qu'à ces peintures éblouissantes qui m'enivraient, à ces symphonies sublimes qui me causaient des joies ineffables, comment ne serais-je pas abîmé dans l'affliction? Si seulement il m'eût été possible de me cacher en ce monde, de m'enfouir dans quelque lieu, comme dans un tombeau. J'eusse été simple machine aimante, en quelque ferme ou à quelque coin de rue offrir le service de mes bras. Cela ne peut être. Suppose-moi au fond de la Sibérie ou en Chine ou en Amérique, chez les sauvages, eh bien, je ne sais par quel hasard, à une heure donnée, il passera un homme qui m'a connu et s'en ira dire où et comment je vis. Et de cela, je ne puis jamais supporter l'idée. S'il n'est pas vrai toujours de dire que passé oblige, au moins est-il sûr que celui qui a vécu dans un milieu intellectuel, qui a laissé s'accréditer sur son compte certaines idées, ne peut pas, dans ce même milieu, ou dans tout autre, on pourrait le découvrir, consentir à descendre au niveau de l'idiot ou du cheval borgne. Je ne prétends point donner ma mort en exemple. Je ne songe pas davantage à la justifier. Mais je voudrais que l'analyse de ma vie, la note de mes travaux incalculables, le récit des douleurs atroces qui m'ont conduit à me détruire, parvinssent partout où il y a des hommes vraiment pères. Si l'on pouvait connaître une fois pour toutes ce que vaut cette vie isolée, privée des joies de la famille, murée par la haine ou l'indifférence, grosse de terreur et de doute, et qui la plupart du temps n'aboutit qu'à la misère et au désespoir. Si l'on pouvait enfin se convaincre combien celle du paysan ou de l'ouvrier est belle à côté, combien, après tout, il est préférable de respirer l'air à plein poumon dans les champs, ou à même de s'étioler dans un étroit espace, de conduire une charrue ou de manier le rebord ou la lime. Mais je ne dois laisser aucune trace. Je suis comme un fruit vert qu'un coup de vent arrache de l'arbre. Je n'ai pas écrit 100 lignes jusqu'à ce jour que j'eusse volontiers signé de mon nom. J'ai brûlé tous mes papiers, projets, ébauches, manuscrits informes, idées décousues. Je ne laisse rien, et probablement il ne sera plus question de moi dans 8 jours. Du moins, on laissera mes cendres en paix, et mon ombre ne sera pas troublée par quelqu'un de ces généreux personnages qui prennent le tombeau des morts pour piédestal de leur colossale et indécente vanité. Adieu, ami bien-aimé, ou plutôt, au revoir. Je m'en vais dans la mélancolie, mais aussi dans la résignation et l'espérance. Quand, après une jeunesse privée de ses joies, arrive l'âge mûr, sans sécurité et sans considération, que reste-t-il en perspective, sinon une vieillesse isolée, misérable, maudite? Je ne perds donc pas grand-chose. Je ne fais que devancer une heure qui, tôt ou tard, sonne pour chacun. L'homme a le tort de vouloir oublier un fait inévitable qui console et moralise. La mort, somme toute, n'est qu'une fontaine de jouvence, et à ce point de vue n'a rien d'effrayant. Peut-être, qui sait, me reverras-tu encore sous les traits d'un petit enfant, avec des bras pour te caresser et un cœur pour te chérir. Actuellement, monsieur, je reprends mon récit à l'endroit où je l'ai laissé. Le sieur Hégésippe n'a pas quitté sa chambre le 22. Je ne sache pas qu'il ait mangé en ce jour qu'il a employé, comme les précédents, à brûler des lettres, à ranger tout chez lui et à faire des paquets. Cette besogne, il l'a occupé jusqu'au soir. Sa chambre, dont le contenu mis dans l'eau et quiqueté était symétriquement entassé le long des murs, ressemblait en petit à la salle d'un commissaire-priseur. La nuit venue, je pensais qu'il allait dormir. À l'encontre de cette attente, il commença à écrire des lettres et me parut décidé à veiller fort tard. Je me couchai. Au jour, je m'aperçus qu'il avait passé la nuit sur sa chaise et la plume à la main. L'excès de sa fatigue se trahissait par une excessive pâleur et un grand désordre dans ses traits. On voyait aussi qu'il avait pleuré. Il plia et cacheta 3 lettres, y mit l'adresse et dormit environ 2 heures. Le front dans ses mains et les coudes sur sa table. De temps en temps, il rêvait tout haut et proférait des phrases entrecoupées. Une fois même, il s'est réveillé en faisant un bond. Son visage exprimait une profonde terreur. Il a rappelé ses souvenirs et a souri mélancoliquement. En le voyant prendre une de ses lettres et se disposer à sortir sans chapeau, j'eus le pressentiment de ce qu'il allait faire. Je le devançai chez le concierge, où je m'assis dans le coin le plus sombre. Bannier y entra en effet bientôt. « Veuillez, dit-il, jeter cette lettre à la poste. Je n'ai pas le temps de sortir, j'ai beaucoup à faire chez moi. » Il déposa la lettre et une pièce de 2 francs sur la table et sortit. Je dis alors au concierge, du ton le plus naturel, « Bon, je vais précisément à la poste. Si vous ne voulez pas vous déranger, je ferai de bon cœur votre commission. Cet homme ne demandait pas mieux. Je causais à mon autre domicile, je décachetais la lettre avec précaution et la copiais en toute hâte. Je fus promptement de retour à mon poste. Voici maintenant, minute par minute, les dernières heures du sieur Égésippe. Je fus bien surpris, me doutant du dénouement, de voir ce vanier et prendre encore la peine de laver soigneusement le carreau de sa chambre, de défaire son lit, de retourner son matelas, de plier sa couverture en quatre et enfin de mettre des draps blancs. Non content de cela, ce qui est encore plus incompréhensible, il s'est aspergé d'eau fraîche, selon sa coutume, s'est parfumé la tête et la barbe et a passé sa meilleure chemise. Je l'ai vu ensuite tourner deux fois la clé dans sa serrure, boucher hermétiquement l'ouverture de sa cheminée et introduire des chiffons dans les interstices de sa fenêtre. Après quoi, il a tiré successivement les trois fourneaux du placard et s'est appliqué à mettre le feu au charbon. Sa pâleur était livide, ses mains tremblaient. De ses lèvres frémissantes s'échappait à tout instant ce cri: Mon Dieu! Mon Dieu! Sa passion d'ordre ne lui a pas laissé de repos qu'il n'ait eu plié proprement ses habits et noué son linge sale dans une serviette. Pendant ce temps-là, les fourneaux s'allumaient et la vapeur de charbon remplissait la chambre. Le chat dormait en rond sur l'une des chaises. Vanier s'est mis alors à genoux et a prié mentalement avec une ferveur extraordinaire. Ah, monsieur, mon état m'a souvent appelé dans les églises, mais j'avoue n'y avoir jamais vu une pantomime aussi merveilleuse. Bien des dévots eussent pu venir à mon observatoire prendre des leçons. Le sieur Égésippe a mis fin à sa prière en ces termes: Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. Mon Dieu, Seigneur de toutes choses, mieux que moi-même vous connaissez cette âme. Pardonnez-moi, ô mon Dieu, je pars pour rester digne de vous. J'étais haletant, monsieur, vous le comprendrez. L'attention m'arrachait les yeux. Il s'est enveloppé dans ses draps comme dans un suaire. Les fourneaux étaient déjà presque ardents. Des flammes blanches et bleuâtres se promenaient sur les charbons rouges. Ces charbons pétillaient à la manière des gens qui jouent des coudes pour avoir de la place et lançaient des étincelles, vraies paillettes d'or enflammées. C'était fort réjouissant à voir. Malgré moi, je songeais aux flammes si jolies du punch. Vanier passait du rouge au blanc et vice-versa. Ses yeux roulaient machinalement dans leurs orbites. Le chat s'est tout à coup réveillé. Il a ouvert un grand œil plein de frayeur. Il a fait le tour de la chambre en vue évidemment de trouver une issue. Il s'est mis à hérisser ses poils et à faire des bonds. Ah, ces miaulements plaintifs, et Égésippe s'est ranimé. Pauvre bête, a-t-il dit. Je t'oubliais. Il s'est levé, non sans faire d'effort, et chancelant comme un homme ivre, est allé entr'ouvrir la porte. Le chat s'est échappé comme une flèche. Il poussait des cris déchirants à faire croire qu'il appelait au secours, voulait donner l'éveil. Il a parcouru ainsi toute la maison. Sa voix lamentable s'est graduellement perdue dans le lointain. On ne l'a pas revu depuis. Les fourneaux étaient rouges. Un brouillard épais obscurcit ses nerfs. Vanier toussait fréquemment. Sa respiration devenait courte. Il étouffait. Sa peau ne discontinuait pas de changer de couleur et de prendre tour à tour des teintes rouges, noires, blanches, violettes. À ce moment, on a frappé légèrement à la porte. Vanier entendit sans doute car il fit un mouvement. Le heurt se renouvela et une voix se fit entendre, voix aussi douce qu'une musique. Et Jésip, et Jésip. C'était Louise. Vanier a un peu soulevé la tête et a dirigé ses yeux vers la porte. Un regret a horriblement contracté son visage. Il a ouvert la bouche et essayé de parler, et la voix a expiré sur ses lèvres entrouvertes. Il a réuni toutes ses forces pour se lever, et ses membres déjà roides ont refusé d'obéir. Oh, c'était tellement horrible que moi, qu'on ne taxera pas de sensiblerie, je faillis m'attendrir. Et la tête est retombée lourdement sur l'oreiller. Il était en proie à l'agonie. Comme des ombres funèbres, des nuages de sang noir passaient et repassaient sur son front. On ne voyait déjà plus que le blanc des yeux, dont la prunelle discontinuait de s'agiter follement pour disparaître sous la paupière supérieure. Son râle battait une mesure de plus en plus précipitée. Il ouvrait la bouche grande, une bouche mousse rose venait à ses lèvres et sortait de ses narines par petits flocons. Puis, tous ces symptômes de convulsions internes s'effacèrent graduellement et les muscles contractés du visage reprirent peu à peu l'expression du calme. Enfin, quelques soupirs analogues à ceux d'un soufflet sans âme, et je ne vis plus rien remuer. J'entendis les pas de la jeune fille qui s'éloignait. Je ne pouvais pas me compromettre en la rappelant. D'ailleurs, à bon sens, la mort de ce Vanier était un bien et non un mal. C'était le cas ou jamais d'agir comme à l'égard des repris de justice. À quoi bon intervenir s'il s'entrigorge? C'est autant de besogne de moins pour nous, pour les juges et pour le jury. Je n'ai pas pensé qu'un homme de cette sorte méritât de la pitié. Il s'est fait justice lui-même. J'ajouterai que mes instructions me faisait simplement le devoir de le surveiller et non celui de lui sauver la vie. Au moment de fermer ce rapport, je reçois l'ordre formel de quitter mon poste et de me tenir prêt à une nouvelle mission. Il me reste, monsieur, à me recommander à vous. On aura égard, je l'espère, à l'intelligence que j'ai déployée dans ce beau travail. Ce qu'il m'a fallu de patience et ce que j'ai enduré de fatigue est inappréciable. Sans compter les courses interminables à travers Paris, et cela durant des jours entiers, j'ai dû quelquefois rester les 24 heures sur ma chaise, sans bouger plus qu'un terme, l'œil au trou, la plume à la main, et n'ayant pour me souvenir d'autre nourriture qu'un peu de tabac dans ma bouche. Ma vue s'en est affaiblie et mon estomac en est tout dérangé. Je suis bien en outre l'Hercule de l'économie. Je gage que depuis les 7 semaines environ que cela dure, je n'ai pas dépensé 700 francs, tout compris. On pèsera à toutes ces considérations. Et l'on trouvera légitime, j'en ai la confiance, le désir d'avancement que j'ose manifester. Je compte d'honorables services et je doute qu'on découvre au monde un homme plus amoureux que moi de son état et qu'il exerce avec une aussi profonde conscience. Enfin, je n'ai jamais failli à l'honneur et je compte bien vivre perpétuellement dans ces bons sentiments.